France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
De la colère, de l'incompréhension et surtout de la tristesse, beaucoup de tristesse. Depuis l'annonce jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex du maintien pour au moins 3 semaines de la fermeture des lieux de spectacle, les musiciens s'expriment et font part de leur détresse morale, une lassitude, un dégoût parfois. Alors que ce 15 décembre devait être le jour de réouverture des salles, alors que des manifestations du monde culturel doivent avoir lieu aujourd'hui partout en France, nous avons choisi, sans parti pris, mais pour faire entendre un secret du cœur, de donner la parole à des musiciens. Dans quelques minutes, nous serons avec la chanteuse de jazz Anne Ducrot, avec le clarinettiste Raphaël Sévère également. Mais d'abord, en duplex de Bordeaux avec nous, Stanislas de Barberac, ténor. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Également porte-parole d'Unisson. Unisson, c'est ce collectif de chanteuses et de chanteurs lyriques qui a vu le jour lors du premier confinement. D'abord, comment avez-vous réagi personnellement, comme artiste, comme chanteur, jeudi soir à l'annonce du maintien de la fermeture de ces salles de spectacle?
Plusieurs sentiments mêlés, évidemment, comme vous l'avez dit très justement, la colère, l'incompréhension, et puis surtout un petit peu le désespoir de se dire mais quand est-ce qu'on va remettre un pied sur scène devant un public, parce que là nous pouvons répéter, nous pouvons monter des projets, mais la finalité c'est de quand même partager ce stress, cette adrénaline avec le public. C'est la plus grande récompense pour un artiste, et puis surtout ce besoin de se confronter au public. Donc, j'ai beaucoup de remontées d'adhérents, de chanteuses et chanteurs lyriques d'Unisson qui sont complètement désespérés. Certains, avec tous ces confinements, déconfinements, reconfinements, sont pris à la gorge financièrement, moralement surtout, parce que notre besoin d'être sur scène, ça engage aussi notre qualité artistique. Et ce manque de prestations devant un public, eh bien, c'est un problème pour le niveau aussi des chanteurs et des artistes en général, parce qu'on a besoin de ça. Et ça commence à prendre un grand pas d'ailleurs dans ce climat un petit peu anxiogène. C'est-à-dire que les artistes se posent la question dans quel niveau je vais être quand tout va reprendre de façon normale.
Stanislas de Barberac, vous parliez de ce qu'on appelle de stop and go, qui est particulièrement douloureux avec ces spectacles qui étaient répétés, qui étaient prêts à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est quoi le sentiment? C'est comme une négation du travail accompli?
C'est terriblement frustrant parce que, comme je dis, c'est un travail d'équipe. Et puis dans les maisons d'opéra, c'est surtout tout un panel d'artistes mélangés, avec des statuts différents, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont employés de façon permanente et qui sont là, qui répètent et qui ont un salaire qui tombe parce qu'ils sont salariés des maisons d'opéra, par exemple. Mais c'est surtout beaucoup d'intermittents qui arrivent pour compléter ces effectifs chez les techniciens, chez les danseurs, chez les artistes lyriques, dans les artistes des chœurs également. Donc tous ces gens-là, si on leur redit de toute façon, là on peut faire un streaming, mais le reste des spectacles, ça va être compliqué de vous rémunérer parce que déjà les finances sont au plus bas, parce qu'il y a des statuts juridiques dans les maisons d'opéra qui leur dit qu'il faut faire un service fait, les services non faits ne sont pas payés. Donc c'est très compliqué. Ces artistes se sont déplacés, ont engagé des frais pour se loger, pour se nourrir, etc. Et risquent sur une série de 5, 6 jusqu'à 12 spectacles de n'en faire qu'un. Donc c'est une grande frustration d'abord par rapport au travail effectué en amont, parce qu'il faut apprendre tous ces rôles, ces chœurs, ces partitions. Et surtout, c'est encore un engagement financier qui tombe. Donc moralement, c'est très compliqué.
C'est la spécificité du travail des artistes lyriques qui se préparent pendant des mois. Alors vous parlez de ces artistes pris à la gorge, mais la France, le gouvernement français aide et soutient financièrement les artistes en soutenant les salles avec l'année blanche pour les intermittents également, Stanislas de Barberac, beaucoup plus que dans d'autres pays.
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que la France reste un pays privilégié en Europe sur le traitement des artistes, ça il faut le dire. Je crois qu'il y a énormément de syndicats professionnels, d'organisations, d'associations professionnelles qui se sont battus très fort et qui ont porté leur voix et leur responsabilité auprès du gouvernement. Et ça a marché parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées aussi parce qu'il y a un travail off très considérable. Et il faut se sentir quand même privilégié d'avoir ces aides, mais ça ne suffit pas à une valeur un peu plus symbolique et plus philosophique, qui est la valeur du travail accompli et la valeur d'un travail présenté. Parce que il y a des bouées de sauvetage comme le streaming, etc. Mais je pense que malgré tout, ce sont des artifices. Et que ça tue un petit peu le métier à petit feu, parce que le risque, c'est que le public finisse par se contenter de ces produits, et que le public n'ait plus forcément la volonté de retourner dans des salles et de reconnaître le travail des artistes en live. Et ça, c'est un grand danger.
Stanislas de Barbarac, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, est non seulement une grande amatrice d'opéra, mais elle a été aussi membre d'honneur de votre collectif, Unisson, oui. Collectif d'artistes lyriques. Est-ce que vous êtes en contact avec elle ?
Nous avons des relations en tant qu'organisation, en tant qu'association avec la ministre de la Culture. Nous lui faisons un petit peu des remontées de terrain précises de ce qui se passe dans le milieu lyrique. Elle est au courant. Il n'y a pas que nous qui le faisons. Je sais qu'elle se bat fort et comme un diable pour la culture. Il y a malgré tout des annonces qui sont faites qui, je pense, dépassent le cadre purement de l'affection et de l'émotionnel envers tout un panel de la culture en général, concernant tout, le théâtre, le cinéma, etc. Je pense qu'il y a cette incompréhension que l'on vit, nous les artistes, aujourd'hui, c'est d'avoir des prises de décision gouvernementales qui font pas la part entre des secteurs d'activité, qui proposent cette iniquité, et c'est ça qui est frustrant. Et je ne crois pas que la ministre de la Culture ait une vraie responsabilité dans cette, parce que je sais qu'elle aurait voulu que les salles rouvrent, et je pense que ce quota de 5000 contaminations et ces chiffres qui ont été donnés par le gouvernement n'étaient pas réalisables. Et c'est là où on se dit que tous les 15 jours d'avoir des mesures qui tombent, c'est une grande frustration pour nous, pour tout le monde, et que ce n'est plus viable, parce que le milieu de l'art lyrique est en train de sombrer, je dois dire, et on n'est pas sûr que ça rouvre, notamment le 7 janvier.
Alors justement, pour finir, Stanislas de Barbarac, hier, Alexandre Derneff, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris, a semblé dire qu'une réouverture pourrait être possible au moment du Nouvel An, donc peut-être avant le 7 janvier, très concrètement. Par exemple, vous devez chanter à l'Opéra de Paris Tamino dans la Flûte enchantée le mois prochain. Est-ce que vous allez chanter ou pas ? Est-ce que les répétitions vont avoir lieu avant ? Qu'est-ce qui est prévu pour l'instant ?
Alors, je sais que les répétitions ont commencé pour le premier cast de la Flûte enchantée. Moi, je devrais être à New York en ce moment pour une Flûte enchantée. Donc je n'y suis pas et je devais être occupé jusqu'à fin janvier et reprendre le cours des répétitions avec un autre cast début février. Pour l'instant, on ne m'a pas dit si je devais venir ou pas à l'Opéra de Paris. Je sais qu'ils répètent la Flûte enchantée pour le premier cast en ce moment. Ils auront une trêve pour les fêtes de Noël. Donc tant mieux si Monsieur Neff pense rouvrir, on en a besoin. Nous verrons encore si le gouvernement en décide autrement. Ouais.
Merci beaucoup Stanislas de Barbarac d'avoir été en direct avec nous, et en attendant de vous écouter, merci. En vrai, on l'espère, vous voici dans ce rôle Tamino, la Flûte enchantée, et c'est avec Laurence Equilbel à la tête d'Insula Orchestra sur ce disque paru récemment.
Bonne journée.
Magique Mozart. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci.
Ist nicht ein Zaubertun, weil alle Flöte durch dein Spielen selbst wilde Tiere Freude fühlen. Wie stark ist doch dein Zaubertun. Weil holde Flöte durch dein Spielen. Holde Flöte durch dein Spielen, selbst viele Tiere Freude. nur Panina bleibt davon, nur Panina bleibt davon. Papagenos Ton. Vielleicht sei bei ihnen schon, vielleicht als sie mit ihm zu mir, vielleicht führt mich der Ton zu ihr, führt mich der Ton zu ihr.
Un extrait de La Flûte Enchantée, Stanislas de Barbeyrac avec Insula, orchestra dirigé par Laurence Equilbet sur ce disque magique Mozart. Stanislas de Barbeyrac était notre premier invité. Ce matin, France Musique donne la parole aux musiciens ce 15 décembre où les salles de spectacle auraient dû rouvrir si les mesures sanitaires ne l'avaient pas exigé autrement. On est avec ce matin également Raphaël Sévère, clarinettiste bien connu des auditeurs de France Musique. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
D'abord, même question qu'à Stanislas de Barbeyrac. Jeudi soir, lorsque vous avez appris ce maintien de la fermeture des salles, comment vous avez réagi ?
J'étais pas si surpris, malheureusement, mais j'étais forcément triste. Et puis, surtout, cette date du 7 janvier était étrange. Je ne l'ai pas vraiment compris. Et donc, je me suis immédiatement dit que... On était reparti pour un tour et que on n'était pas au bout de nos peines, malheureusement.
C'est ça qui est particulièrement difficile, c'est de, alors, comme beaucoup de gens dans plein d'autres domaines, mais de ne pas pouvoir se projeter d'une façon ou d'une autre.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un manque de perspective, un manque de but aussi, qui est très très difficile, puisque souvent on travaille pour des choses qui sont annulées, parfois au dernier moment, parfois en avance, etc. Et donc au bout d'un moment, c'est très décourageant, ça c'est sûr.
C'est ce que disait tout à l'heure Stanislas de Barbeyrac. Vous avez pris la parole sur les réseaux sociaux depuis jeudi pour faire part d'une inquiétude très vive. Pourquoi êtes-vous si inquiet ?
Eh bien, je suis inquiet puisque je trouve que on ne met plus l'art à sa juste place, sa juste valeur. Je trouve que vraiment, on n'a plus conscience de l'importance, du côté essentiel, hein, pour reprendre la terminologie actuelle, de l'art, de la culture. Et c'est pour ça qu'il me tenait à cœur de vraiment dire dans ma prise de parole que l'art vraiment a une fonction indispensable et surtout en ce moment, surtout dans les périodes les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que quand vous allez à un spectacle vivant, il y a ne serait-ce qu'un phénomène presque physique de vibration qui fait que la rencontre entre le public et les artistes permet un moment vraiment unique et donc on en ressort transformé. Enfin, vraiment, on ressent des émotions incroyables, etc. Et donc c'est très 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 important, surtout dans une période où le moral est au plus bas, où il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus fragiles, etc. Aller à l'opéra, aller au concert, aller, c'est une bouffée d'oxygène vraiment essentielle. Et c'est terrible, je trouve, qu'on soit relégué vraiment au stade de dommage collatéral et qu'il y ait absolument aucune exception de fait pour tout le milieu de la culture qui est vraiment englobé dans un gros paquet. Voilà, moi je voulais vraiment remettre la place de l'art au centre.
La musique sauve des vies, dites-vous, comment cela ?
Eh ben ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu. Vous savez, en fait, on joue souvent, hein, dans des établissements type EHPAD, asile, etc. Et donc avec des gens qui ont soit des pathologies lourdes, soit qui sont vraiment pas du tout bien dans leur vie. Et le fait d'écouter justement du Mozart, d'avoir quelque chose un instant complètement autre, ça les fait sortir de leur univers pour entrer dans un autre univers, et on a des témoignages qui sont vraiment bouleversants, et des gens qui tiennent grâce à ça. Donc c'est sûr, c'est un peu fort comme phrase, la musique peut sauver des vies, mais elle, en vérité, elle peut être essentielle et elle peut avoir ce rôle. On voit par exemple mon père qui est professeur de clarinette avait fait une expérience avec quelqu'un qui était atteint de la maladie de Alzheimer, vraiment dans un stade avancé, qui ne reconnaissait plus ses proches, etc. Et donc c'était un ancien clarinettiste. Et mon père avait apporté une clarinette, etc. Et la personne, en prenant la clarinette, pouvait rejouer des morceaux, etc. C'est-à-dire que la musique s'adresse à très très profondément et donc a un impact incroyable. Et voilà. Et tout simplement, moi, sans ça, j'ai du mal à vivre quand même.
Raphaël Sévère, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez ou qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement puisse mettre en place? Il y a quand même beaucoup de choses d'un point de vue financier, on le disait aussi, qui ont été faites par la France et le gouvernement français.
Alors d'un point de vue financier, oui, bien sûr, ça a été fait, même si moi, ça m'inquiète aussi, puisque qui va financer tout ça et qui va payer ces mesures, c'est une autre question. Mais moi, ce que je voudrais, c'est très simple, c'est qu'on réouvre les salles de culture, les lieux de culture, tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une exception de fait au même titre que l'exception faite pour les lieux de culte, pour les enterrements, etc. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est très important. Ne pas pouvoir aller à l'enterrement d'un proche, c'est inhumain. Et pour moi, ne pas pouvoir aller dans un concert, c'est vraiment pas normal. Et on devrait pouvoir avoir cet accès à l'art, d'autant plus lorsque toutes les mesures et toutes les normes sanitaires sont respectées. Et qu'il n'y a pas ce risque. Voilà, c'est pas normal d'ouvrir des grands magasins, des choses. Hier j'étais à Ikea, ils acceptent jusqu'à 2400 personnes dans le magasin. Enfin, vous vous rendez compte quand même. Dans le même temps, nous, on peut pas exercer en ayant juste une personne sur trois, etc. Je trouve pas ça normal. Donc, je demande juste la cohérence de si les transports et les magasins sont ouverts, qu'on ouvre les salles de culture.
Vous craignez une désaffection du public ?
Alors non, ça je suis pas si inquiet, puisque en fait on l'avait vu quand les lieux de culture avaient repris qu'il y avait plus qu'une demande, un vrai besoin. Même quand il y a eu le couvre-feu à 21h et que les concerts étaient avancés à 18h, 19h, etc. Il y avait du monde dans le respect des règles et tout ce qu'il faut, mais il y avait du monde. Les gens étaient vraiment là. Et donc, non, je pense qu'il y a ce besoin de culture, il est toujours présent et il n'y aura pas de... Si on réouvre, les gens seront là. Je ne pense pas qu'il y ait une désaffection par rapport à ça.
Les concerts en streaming se sont développés. On en parlait aussi tout à l'heure avec Stanislas de Barberac. C'est un phénomène qui inquiète les musiciens, que ce soit une nouvelle forme de diffusion. Certes, un pis-aller aujourd'hui, et on est bien content de pouvoir écouter de la musique avec les écrans, mais...
C'est des miettes, c'est vraiment un palliatif donc qui est bon à prendre, hein. Moi je ne blâme absolument personne, moi aussi j'en fais, tout le monde en fait, puisque ça nous donne un but, ça permet à notre volonté de se tendre vers un objectif, de travailler, de tout ça, donc on vivote grâce à ça, mais il faut surtout pas qu'on donne l'impression que on se contente de ça, puisque c'est un modèle qui est absolument pas fiable, étant donné que déjà de 1 il rapporte 0 centime, et de 2 ce moment de transcendance justement du concert n'est rendu possible qu'avec le public, etc. Donc en fait, nous, tout ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve le public le plus vite possible.
Comme beaucoup d'artistes, votre dernier disque en tour avec Paul Montag et surtout sa tournée ont été un peu sacrifiés. Il y a ce sentiment-là, comme beaucoup de musiciens qui viennent ici tous les matins.
Nous, avec Paul Montag, on avait deux tournées qui ont été annulées. On avait au moins une quinzaine de concerts avec ce programme et tout a été annulé. Donc l'année 2020 aura été un petit peu difficile pour nous, ça c'est sûr.
En fait, c'est vers voici un extrait de ce disque musique de Léo Weiner. La danse des clochettes de Léo Weiner, Raphaël Sévère à la clarinette, Paul Montag au piano, extrait de ce disque On Tour. On est avec Anne Ducrot également ce matin. Bonjour Anne Ducrot.
Bonjour Jean-Baptiste.
Grande chanteuse de jazz qu'on aime beaucoup sur France Musique. Je vous pose la même question qu'à nos autres invités. Comment vous avez accueilli jeudi soir cette annonce ?
Comme une terrible et douloureuse injustice, presque, j'ai envie de vous dire, comme une punition. Parce qu'en effet, c'est extrêmement compliqué que de ne pas pouvoir être sur scène. Hein. J'ai moi aussi un album donc, qui sortait au mois de février. Quand on sort un album, c'est une quarantaine de concerts dans l'année. J'en ai fait deux depuis le mois de février.
Deux sur 40.
Oui. C'est affligeant parce qu'en effet, on n'est pas au rendez-vous, parce que c'est une frustration terrible, parce que je pense que la créativité comme le temps, ce qui est perdu est définitivement perdu. Il y aura d'autres concerts avec d'autres ambiances nourries de tas d'autres choses, mais tout ce qu'on n'a pas fait, c'est perdu, même si les concerts sont en effet reportés à l'année prochaine.
À qui pensez-vous aujourd'hui, et notamment je pense à la situation spécifique des artistes de jazz, qui est un peu différente des musiciens classiques qu'on reçoit quasiment tous les matins ici sur France Musique.
Ouais. Écoutez, à qui je pense, je vais peut-être vous étonner, mais en ce moment, j'ai une réflexion autour d'un écrivain biologiste, entomologiste que j'adore, qui s'appelle Jean Rostand. Jean Rostand, il a une phrase merveilleuse qui m'a intriguée depuis des années et qui dit, au contraire des fourmis et des abeilles, nous n'avons pas l'organe de société, nous les êtres humains. Et bien, je suis à peu près persuadée que ce qui compense ça, c'est-à-dire que ce que nous avons et que n'ont pas les fourmis, c'est notre sens critique. Le sens critique, c'est ce qui définit un individu en tant que lui-même dans la société. Ce sens critique ne se nourrit que d'une chose, c'est de la culture. La cultivation de soi, j'aime bien ce mot-là. Or, qu'est-ce qu'on peut faire contre un gouvernement qui est en train de bâillonner aussi violemment la culture et par conséquent empêcher l'individu de se développer, d'être lui-même. Notre sens critique, c'est ce qui fait la différence entre nous et les fourmis. Or, si on ne peut plus l'entretenir, ce sens critique, le développer, eh bien, on se prépare une société de fourmis, obéissante, travailleuse et disciplinée. Ça me fait infiniment peur. C'est très orwellien, hein, c'est très effrayant, mais j'ai vraiment envie d'interpeller le gouvernement pour leur demander, est-ce que c'est ça, en laissant ouverts les lieux de grande consommation, les grands magasins en ce moment, qui sont bondés de monde, les transports, qui sont bondés de monde, les avions, etc., et bâillonner la culture sous toutes ses formes, est-ce qu'en faisant ça, vous affichez votre jeu? Est-ce qu'en faisant cela, vous décrivez le monde dans lequel vous avez envie de nous installer? Parce que dans ce cas-là, nos problèmes, ce qu'on rencontre, le fait de ne pas pouvoir aller jouer et s'exprimer, c'est rien, ridiculement rien, à côté de la cruauté du monde qui se prépare, un monde de fourmis.
Anne Ducrot, vous irez manifester ce midi?
Oui, bien sûr. J'appelle les millions de gens à sortir. Je sais que c'est compliqué, mais j'ai entendu des phrases incroyables, des amis qui me disaient « Oh, écoute, on va aller manifester, j'espère qu'on en reviendra entier. » Enfin, c'est terrible d'avoir peur d'aller manifester. Mais quoi qu'il en soit, les Français, je le sais que les grandes causes, celles qui remettent en question leur liberté d'être et d'expression, on l'a vu par exemple au moment des attentats de Charlie Hebdo, les Français sortent dans la rue quand ils sont interpellés et que leur situation de liberté est mise à mal. J'espère qu'il y aura des millions de gens dans les rues aujourd'hui pour aller dire non, nous ne sommes pas des fourmis.
Merci Anne Ducrot, j'ai une dernière question. Tiens, vous êtes à Paris la semaine prochaine ou la semaine d'après ?
Oui, bien sûr.
Bah, vous venez sur France Musique dans Musique Matin, vous serez notre invité un matin à 8h30.
Quand vous voulez, avec un immense plaisir, je suis toujours votre émission avec une grande attention. Bah, je suis ravie d'être votre invité.
C'est adorable, on aurait dû écouter votre disque, mais on n'a plus le temps, donc on l'écoutera avec vous dans quelques jours.
Avec grand plaisir.
On va concrétiser tout ça. Merci beaucoup Anne Ducrot, merci Raphaël Sévère.
Je vous en prie, merci de votre invitation et m'avoir donné la parole, c'est très précieux.
Merci à vous deux et à très bientôt. Et l'invitation est lancée, Anne Ducrot. C'était Musique Matin. Demain, notre invitée sera Rosalie Varda. Demi, on fêtera jour pour jour les 50 ans de la sortie de Peau d'âne, un film qui parle à beaucoup d'entre nous et d'entre vous.
À réécouter sur francemusique.fr.